Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour, crise à l'hôpital et à tous les étages. Manque de médecins, appel à des spécialistes venus de l'étranger pour faire face aux pénuries et des patients désemparés. Au Portugal, ce sont les maternités qui sont à bout de souffle, sans moyens, à tel point que jusqu'au printemps prochain, les urgences obstétriques vont fonctionner dans le pays en suivant un système de rotation. Une question sensible, alors que la natalité est en chute libre dans le pays. Reportage à Lisbonne, signé Marilyn Darcy.
L'hôpital Santa Maria est arpenté chaque jour par des centaines de personnes qui se rendent aux consultations. Le professeur Diogo Hertz de Campos est le directeur du service maternité obstétrique. Il dirige aussi la commission chargée de tenter de résoudre les problèmes de ces services spécialisés liés au manque de personnel, entre autres. Répartir la charge entre les différents hôpitaux est la décision qui s'est imposée.
Nous avons eu l'idée de programmer la fermeture des services hospitaliers avec un système de rotation durant les week-ends, dans la mesure où on ne peut pas résoudre à court terme le manque de personnel. Il s'agit d'une mesure provisoire de fermeture des maternités, mais c'est actuellement la seule possibilité.
Mise en place pour les fêtes de fin d'année, la mesure est prolongée jusqu'en mars au moins et semble fonctionner. Elle permet au moins une certaine visibilité. Mais pour le professeur Diogo Hertz Campos, le problème est plus profond.
La crise structurelle a pour origine la crise économique du début de la dernière décennie. Il n'y a pas eu depuis de rattrapage des salaires ni d'investissement dans les équipements et les infrastructures. Puis, le Covid est venu s'ajouter à un manque de stratégie à long terme du gouvernement sur ces questions. Et c'est vraiment ça, le cœur du problème.
Les médecins vieillissent et prennent leur retraite, ou bien ils vont dans le privé, qui sait les attirer. Pour le gynécologue Miguel Oliveira, qui consulte au 7e étage du Santa Maria, les salaires sont le nerf de la guerre.
Avoir la capacité de maintenir le jeune obstétricien, dont la plupart sont des femmes, une fois qu'elles finissent leur spécialité, et ça pose des problèmes économiques. Il faut payer mieux qu'on paye maintenant.
Naissance et accouchement sont naturels et prévisibles. En cela, la maternité est quelque chose de rentable et le secteur privé en profite.
Au Portugal, le nombre de naissances est en train de diminuer. Nous avons eu, pendant la pandémie, pour la première fois depuis longtemps, moins de 80 000 accouchements dans l'année 2020. En 2021, nous avons un peu récupéré. Mais quand on voit dans les hôpitaux privés de la Grande Lisbonne, le nombre des accouchements monte.
Le secteur public réalise 35% de césariennes, le secteur privé 60%, ce qui en dit long sur les dérives du système. Pour l'association de protection de la femme dans la maternité, la rotation des services pour faire face au manque de personnel ne peut être que provisoire. Isabelle Valente, membre de la direction de cette association.
Nous sommes inquiets face à ce qui pourrait devenir une solution permanente. Ce n'est pas correct d'obliger une femme en train d'accoucher à parcourir de nombreux kilomètres pour rejoindre un service d'urgence loin de chez elle. C'est une situation inacceptable. Ça augmente les risques pour la mère et l'enfant et on a eu des cas dramatiques avec des morts.
L'association milite pour les droits des femmes et le bien-être dans la maternité. Elle recommande entre autres la création d'unités de soins maternels autour d'un infirmières spécialisées, à l'instar de ce qui se fait dans les pays de l'Europe du Nord. À l'hôpital Santa Maria, on n'est pas totalement opposé au principe et on est favorable à une plus grande autonomie des spécialistes. En attendant une solution pérenne, ce sont les femmes qui préparent leur accouchement qui s'inquiètent. Simone est venue en consultation pour ses 6 mois de grossesse.
Je m'informe de la situation, bien sûr. Mais ça me prend la tête, je m'interroge. Est-ce que la maternité va fermer? Est-ce qu'ils vont me prendre en consultation? Bon, ils vont bien recevoir toutes les femmes, c'est obligé. Mais la grossesse, c'est pas facile, ça remue les émotions, on ne dort plus la nuit. Alors moi, franchement, je préfère me débrancher de tout et continuer à avoir la foi et espérer que tout va bien se passer.
Le modèle portugais de santé publique est fatigué. Le gouvernement a promis 10 millions d'euros d'investissement dans les services de maternité du pays. Mais il faudra résoudre un gros problème, celui du manque de professionnels de la santé.
Doctor,
Et en Grèce, le constat est encore plus grave dans la mesure où le pays doit aussi faire face à un départ en nombre des médecins qui sont sous-payés à l'hôpital public suite à la crise de la dette. La pénurie est particulièrement visible parmi les anesthésistes. 250 manquent à l'appel dans les 80 plus gros hôpitaux du pays. À Athènes, Joël Bronner.
Au moment de la rentrée scolaire, en septembre dernier, le manque d'anesthésistes en Grèce a été illustré par les difficultés de Sainte-Sophie, le principal hôpital pour enfants du pays, situé au cœur d'Athènes. Les médecins de l'hôpital décrivent alors une situation ingérable en raison d'une pénurie d'anesthésistes. Seulement 8 postes pourvus sur les 17 que compte théoriquement l'hôpital, soit moins de la moitié. Résultat, près de 3000 opérations sont repoussées à Sainte-Sophie et les soignants se retrouvent contraints de se concentrer sur les seules opérations d'urgence. Quelques jours plus tard, à l'occasion d'un congrès d'anesthésiologie à Thessalonique, la deuxième ville du pays, les représentants du secteur ont eux aussi alerté sur cette pénurie nationale. Moins de 10 anesthésistes pour 100 000 habitants, c'est deux fois moins que la moyenne requise. Pour les professionnels, la principale explication vient de salaires trop peu élevés, en décalage avec l'exigence du métier. Ces dernières années, en effet, les salaires grecs ont chuté de près de moitié dans le secteur de la santé publique en raison des politiques d'austérité nées de la crise de la dette. En Grèce, un anesthésiste touche ainsi un salaire de départ proche de 1 000 euros, plus des primes de garde de quelques 500 euros. À titre de comparaison, la rémunération est aujourd'hui environ 3 fois plus élevée dans la partie grecque de l'île de Chypre, où la langue est la même. Pas certain dans ces conditions que l'augmentation de 10% des salaires des médecins du public, annoncée pour 2023 par le Premier ministre grec, suffise à compenser ce déséquilibre structurel. À en croire Yorgos Patoulis, le président de l'Association médicale d'Athènes, ce sont en effet plus de 20 000 médecins grecs qui ont quitté le pays au cours de la dernière décennie.
En Allemagne, les chiffres donnent le tournis. Il manquerait dans le secteur de la santé plus de 290 000 personnes. Si l'on comptabilise les médecins généralistes, les spécialistes, les infirmières, les aides-soignants et autres aides à domicile pour personnes âgées. Et le problème devrait s'aggraver d'ici 2035. Le cabinet PwC évoque 1,8 million de postes vacants d'ici 2035, une vraie catastrophe alors que la population vieillit. Pour y remédier, l'Allemagne tente d'attirer de la main-d'œuvre étrangère. Les candidats sont nombreux, mais le parcours est difficile. Reportage signé Delphine Nerbollier.
Guten Morgen, hallo.
Zacharia Ben Imam nous appelle de Bad Windsheim, en Bavière. Ce médecin de 37 ans a fait toutes ses études dans son pays, en Algérie, mais depuis bientôt 3 ans, il travaille dans un hôpital public de cette petite commune bavaroise de 12 000 habitants. S'il a commencé son parcours en Allemagne par un stage dans la capitale, Berlin, c'est ici, en Bavière, que ce médecin orthopédiste a véritablement commencé sa carrière en tant que chirurgien. Et il se dit extrêmement satisfait de ce choix.
10 sur 10. Mes attentes n'étaient pas du tout ça. C'était 2 ans, maximum 3 ans et je quitte. Mais après, j'ai vu vraiment que l'hôpital, le chef service et toute l'équipe, qu'ils étaient en train d'investir dans mon rêve. Et ce qui était vraiment, vraiment intéressant, c'est que j'ai commencé à opérer après 6 mois de travail.
Si Zacharia Ben Imam a choisi de quitter l'Algérie, c'est pour apprendre une spécialité peu développée dans son pays, la chirurgie prothétique, spécialisée dans les prothèses. Il a pesé le pour et le contre d'une carrière en France et en Allemagne.
Quand on vient ici, on apprend la langue, on obtient une autorisation d'exercice et on commence. Mais en France, on aura un demi-salaire d'abord et aussi beaucoup de garde pour arriver à un certain salaire qui nous permettra de vivre à l'aise aussi en France. Donc, beaucoup d'amis qui ont dit que si l'opportunité s'offre pour l'Allemagne, il faut partir en Allemagne parce qu'en France, c'est un peu difficile.
En Allemagne, les médecins et personnels soignants étrangers qui commencent à travailler sont en effet payés comme leurs collègues allemands. Mais avant cela, ils ont dû suivre un parcours compliqué. Apprentissage obligatoire de la langue, reconnaissance des diplômes et des équivalences, sans parler des relations difficiles avec l'administration. Si Zacharia Ben Imam a effectué ce parcours du combattant avec l'aide d'un ami installé à Berlin, d'autres candidats font appel à des agences spécialisées. Medification est l'une d'entre elles. Basée à Cologne et à Ankara, elle aide les soignants turcs à poser un pied en Allemagne grâce à des contrats passés avec des établissements hospitaliers dans le pays. Özlem Özcan Çamoş accompagne les candidats durant ce processus. plus.
D'ici février, nous assurerons la venue d'une centaine d'infirmières. Nous les aidons avec les procédures d'équivalence des diplômes, de visas, de traduction des documents, d'aide au logement. Ce n'est pas vraiment un processus facile et justement notre but, c'est de faciliter les choses, tous ensemble.
Parmi les candidats à l'immigration dont s'occupe cette agence se trouve Boussé Ünsal. Cette infirmière de 27 ans habite à Ankara. Elle apprend l'allemand depuis 3 mois et compte bien pouvoir rapidement déposer sa demande de visa pour l'Allemagne. Grâce à l'agence, elle obtiendra un poste de 6 mois, puis, si tout va bien, de 2 ans, avant un possible contrat à durée indéterminée. Pour elle, le choix de l'immigration s'est imposé de lui-même.
Travailler comme infirmière en Turquie est extrêmement difficile. On nous ajoute des missions qui n'ont pas grand-chose à voir avec le métier. Financièrement aussi, c'est difficile. En fait, c'est pour avoir une vie plus facile que l'on veut aller en Allemagne. On a choisi ce pays car beaucoup dans notre entourage y vont aussi. On n'a pas envisagé d'autres destinations.
Des candidats comme Boussé Ünsal et Zakaria Benimam, l'Allemagne en redemande. Car ce pays de plus de 84 millions d'habitants manque cruellement de soignants. Il manquerait plus de 290 000 personnes dans ce secteur. Et ce n'est que le début. Selon l'Institut PwC, 1,8 million de postes de soignants pourraient être vacants d'ici 2035. La faute, entre autres, au vieillissement de la population. En Allemagne, 20% de la population a plus de 65 ans, contre 15% en moyenne dans l'Union européenne. La faute aussi à des années de sous-investissement dans le secteur médical et à des numerus clausus très stricts dans les universités et écoles spécialisées. Dans sa clinique de Bad Windsheim en Bavière, le docteur Zakaria Benimam confirme l'intensité du problème.
En chirurgie, il y a juste 3 Allemands et le reste, les assistants, sont tous des étrangers, de l'Égypte, de l'Algérie, de la Tunisie. En médecine interne, c'est encore pire. Ils n'ont aucun Allemand, je pense. Vraiment, vraiment, en Allemagne, il y a un manque terrible de médecins.
L'an dernier, les médecins étrangers qui ont reçu une autorisation de travailler venaient essentiellement de Syrie, mais aussi de Turquie, d'Égypte et d'Ukraine. Pour répondre à la crise, les autorités fédérales ont modifié en 2020 la loi sur l'immigration et prévoient une nouvelle loi en mars. Car la concurrence entre pays est grande, l'Allemagne est loin d'être la seule à vouloir attirer les soignants.
The title spare. How old were you when that name or that description?
I assume the air spare is probably something very new, but it is.
On n'a sans doute pas encore tout à fait fini de parler de l'autobiographie du prince Harry, deuxième dans l'ordre de succession à la couronne britannique après son frère William. Et c'est justement cette position de numéro 2 qui a inspiré le titre de son livre « Spare », traduit par le suppléant en français. Le livre a battu des records de vente au Royaume-Uni, mais dans notre chronique en un mot de cette semaine, on va surtout décortiquer les différentes variantes du mot spare qui ont fait couler beaucoup d'encre. Bonjour Marie Billon.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes notre correspondante à Londres. Tout d'abord, comment comprendre le mot spare ?
Alors, dans ce contexte, ça veut dire littéralement le suppléant, l'héritier qui est en plus, comme on dit, il y a the heir and the spare, l'héritier et le suppléant, celui qui est là en cas de catastrophe hein, pour l'aîné, mais dont on n'a vraiment pas besoin autrement, celui dont on espère finalement bien pouvoir se passer. Ça n'est pas très flatteur hein, d'être le spare, donc, et dans certaines langues, le titre du livre a été traduit autrement, comme on l'entend ici sur Sky News.
Well, just let's do the name. It's called spare in English. How does that
sound? But it's in the shadow. It's not the same title. I don't know how they got this. The editors used this name, but.
Parlons du titre, dit le journaliste. C'est spare en anglais. En la sombra, répond l'invité qui est un journaliste espagnol. Je ne sais pas pourquoi l'éditeur a fait ce choix, ajoute-t-il. En réalité, ça reste le même principe. Hein. Ça veut dire celui qui n'est pas censé être important, mais qui doit rester pas loin, dans l'ombre du grand frère, l'héritier William, au cas où. Mais pour revenir à l'actualité littéraire, on a beaucoup entendu parler de En la sombra, puisque c'est dans certaines librairies espagnoles que le livre a été mis en vente avant la parution officielle. Des journalistes hispanophones du monde entier ont donc pu en dévoiler les détails croustillants. Mais en fait, la plupart des pays ont leur propre traduction. Le suppléant, en France donc, et en Italie par exemple, c'est un double titre. Spare il minore. Il minore, ça veut dire le plus petit, mais aussi le moins important. Bref, tout ça pour dire que le titre du livre du prince Harry est un jeu de mots acide.
Et la presse britannique
a poursuivi ces jeux de mots.
Absolument, parce que spare, ça veut aussi dire épargner.
I mean, it's just page after page of, I mean, nobody has been spared here. But people I've spoken to.
Page après page, nobody has been spared. Personne n'a été épargné, dit le journaliste de la BBC. C'est un jeu de mots qui a été utilisé dans plein de déclinaisons. Spare is unsparing, écrit le New Statement. Le livre ne fait pas de quartier. Les mémoires d'Harry sont unsparing towards his brother. Il n'en rate pas une sur son frère, peut-on lire dans le Coventry Telegraph. Harry is unsparing. Harry ne mâche pas ses mots quand il relate des événements privés, écrit The Spectator. Et puis il y a aussi les jugements de valeur. If you have money to spare, buy spare. Si vous avez de l'argent en trop, achetez le suppléant. Ou if you have time to spare, read spare. Si vous avez du temps à perdre, lisez spare. Ça marche mieux, évidemment, dans la langue de Shakespeare.
Et spare, c'est un mot qu'on retrouve beaucoup dans le langage courant.
Oui, ça s'utilise beaucoup. Spare fait partie de plein d'expressions anglaises. To spare a thought for someone, c'est penser à quelqu'un qui est en difficulté. Notre « as-tu une minute pour moi ?» se traduit par « do you have a minute to spare ?» Et bien sûr, le « épargne-moi tes excuses »,« spare me your excuses ». Mais même dans le langage royal, spare est connu. Harry est désigné comme le spare depuis longtemps. On lui a passé sa mauvaise conduite quand il était ado parce qu'il était le suppléant et pas l'héritier. Mais on garde aussi en tête, au Royaume-Uni, que dans l'histoire, certains des monarques les plus connus étaient des spares. Henri VIII, le roi aux six épouses au XVIe siècle, ou Charles Ier, décapité après les révolutions anglaises en 1649. Et bien sûr, George VI, le père d'Elisabeth II, qui est monté sur le trône après l'abdication de son grand frère, Édouard VIII. Et puis un détail, le spare est désormais le deuxième enfant, quel que soit le sexe des deux enfants. La loi a été changée avant la naissance du premier enfant du prince William, si bien que la princesse Charlotte est bien une spare alors qu'elle a un petit frère. Mais si Elisabeth II avait eu un petit frère plutôt qu'une petite sœur, en l'occurrence la princesse Margaret, eh bien le petit frère aurait été the heir, l'héritier, et Elisabeth la suppléante, the spare.
Spare, c'était la chronique en un mot de Marie Billon. Merci, à très bientôt.
Tout le monde savait que le Fuse était quelque chose à part. Beaucoup de DJ m'ont dit...
Et on termine en musique, ou plutôt peut-être sans musique. Le Monde de la Nuit est en émoi à Bruxelles. Une boîte emblématique de la capitale belge, le Fuse, un lieu incontournable de la musique électronique, risque de fermer ses portes suite à un litige avec ses voisins. Clients et artistes se mobilisent leur brouillard.
Objectif, sauver le Fuse. Une pétition en soutien au club a déjà recueilli plus de 60 000 signatures sur le net et de nombreux Bruxellois, mais aussi des stars de la musique électronique, comme le DJ français Laurent Garnier, ont fait part de leur déception face à la fermeture de ce temple de la techno. Lancé au début des années 90, il a accueilli des grands noms de la musique, comme les Daft Punk, Aphex Twin ou encore la chanteuse Björk. La nouvelle de sa fermeture a ému jusque dans la classe politique belge. Le Fuse doit vivre, a tweeté le maire de la capitale, s'engageant à tout faire pour trouver une solution afin que le club rouvre au plus vite. Tout est parti des plaintes d'un voisin à propos de la pollution sonore. L'administration régionale bruxelloise a ensuite ordonné à la discothèque de limiter le volume de la musique et de fermer à 2h du matin. Des conditions impossibles à tenir pour une boîte de nuit, assure la direction du Fuse, qui a donc choisi de baisser le rideau. L'incident a en tout cas ouvert un débat sur la gestion des lieux de fête dans la capitale belge. Le Conseil de la vie nocturne de la ville, un organe qui rassemble tous les acteurs du monde de la nuit, demande une redéfinition du statut légal des discothèques, aujourd'hui considérées comme des enseignes commerciales et non culturelles. Tandis que certains députés bruxellois proposent de créer une fonction de maire de la nuit, une sorte d'ambassadeur et de médiateur de la fête qui existe déjà à Paris, à Amsterdam ou encore à New York. Reste à savoir jusqu'à quand le Fuse restera fermé. Le club a introduit un recours auprès des autorités régionales, leur demandant d'annuler les nouvelles restrictions.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous en podcast sur le site de RFI. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. À demain.